le maire avait refusé.
Ah, parce qu'il y a des gens qui veulent appeler leur fille assiette, chaise, fauteuil, n'importe quoi. Il y a des...
Oui, mais il y en a un qui s'appelle... Vous, ça n'enregistre pas, là?
Non.
Non,
alors,
non, non, vous pouvez rester.
Non, non.
Vous savez, la bande dessinée avec Corto Maltese, vous connaissez?
Oui.
Eh bien, ma fille aînée, qui est médecin scolaire, elle avait l'autre jour un petit garçon qui s'appelait Corto. Ça n'allait pas du tout. Corto Maltese, c'est un héros de bande dessinée, alors il s'appelait Corto.
Mais on l'a laissé s'inscrire avec ce nom.
Oui, il s'appelle Corto.
Ouais.
Et en fonction de quoi on dit oui ou non? Vous savez ou vous savez pas?
Comment?
Je sais pas, je crois qu'il y a un calendrier avec des prénoms authentiques, authentiques entre guillemets, c'est-à-dire d'origine chrétienne. En fait, on s'est aperçu déjà sous la Révolution française que ces saints étaient de faux saints et c'était des noms païens. Bon, alors, après, il y a eu l'invasion des noms espagnols, italiens, les mots anglo-saxons. Alors, on a fini par être plus laxiste et accepter plus largement. Il y a des gens qui s'appellent Jérémy, John.
Mais à l'époque,
John...
la France avait un empire colonial qui était énorme, quand il y avait, je me le rappelle, je crois que c'était un président du conseil nommé qui est allé se promener en Afrique noire, on avait appelé des enfants comme prénom. Alors, vous vous rendez compte, non?
Oui.
C'est ridicule, moi, je trouve.
Oui, mais... Bon. Alors, tu veux tu parler?
Alors, vous êtes né où? Ici, à Bayonne?
Je suis né à Bayonne, en 1925. Et, je sais pas, je suis parti, j'avais 3 mois à Pau. Ma mère était couturière. Elle avait commencé, à 18 ans, à se lancer dans la couture. C'était l'époque où il n'y avait pas de... comment dire, de charges sociales. Elles ont apparu en 1927, 2 ans après. Alors, elle est passée de 15 ouvrières à 2, parce qu'elle ne pouvait plus les payer. Alors, mon frère aîné, qui avait 4 ans de plus que moi, a été très gâté, parce qu'il passait de fille en fille, vous comprenez. Tandis que moi, j'ai été élevé... il a servi de brouillon pour moi. Alors, j'étais apparemment mieux réussi que lui. On est parti à Pau, où mon père, qui était un prolétaire, comme son père. Son père était cheminot, le mien était ajusteur, ferronnier. Et puis pendant la guerre, comme il était sur des skis, là, vous savez, skieur alpin, mais tout petit, 1m50, il devait faire de grandes enjambées pour suivre les autres. Il est passé dans les PTT parce qu'il y avait toutes les lignes téléphoniques qui étaient ravagées dans l'Est. Alors le travail, c'était installer les lignes téléphoniques, installer les serreries, rebâtir les maisons. Alors il a grimpé les échelons. Et quand il a été nommé chef de service, il est mort en 1930 du diabète. Parce qu'il avait des ancêtres qui avaient du diabète. Il a refilé ça à mon frère, qui au retour de sa déportation d'Allemagne est revenu diabétique. Et moi, génétiquement, j'ai échappé à cette fatalité. Alors mon frère continuait dans les PTT, c'est-à-dire il est devenu télégraphiste, à bicyclette, porter des télégrammes. C'était pas l'époque encore du fax. Hein. Moi, pendant les vacances, je gagnais ma vie comme télégraphiste de 10 à 15 ans, après avoir gardé les vaches chez mes oncles paysans. Lui, il est devenu facteur. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il était très paresseux, et c'est moi qui avais 4 ans de moins qui l'ai fait travailler. Je l'ai fait recevoir à l'examen de commis des PTT, puis d'inspecteur des PTT, toujours premier. Mais comme j'étais plus jeune, il avait de la difficulté à m'obéir parce que c'était moi qui lui faisais la classe. Bon, puis je suis devenu instituteur après un concours d'entrée. Je ne sais pas si c'est pareil en Espagne, les écoles normales d'instituteur. Non. Non. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est alors?
Il y a des études spécifiques, des études de 3 ans ou 5 ans.
Alors à ce moment-là, ce qu'on appelait les hussards de la Troisième République, c'était les gens qui entraient en religion, je veux dire, religion laïque, comme instituteurs. Et moi j'étais instituteur au moment de la guerre. Et Pétain m'a supprimé les écoles normales à ce moment-là. Alors on m'a placé au lycée de Mont-de-Marsan. Et à Mont-de-Marsan, il y a eu l'invasion de la zone libre par les Allemands. Alors on m'a rattaché à ma maison mère, qui était l'école normale de l'ESCA. Mais c'était le lycée de Louis Barthou, là où était M. Bayrou, le ministre de l'Éducation nationale, il y a quelques années, comme prof, comme jeune prof. Puis de l'école normale, moi, je, fils de prolétaire, je me disais, c'est instituteur, c'est le pied, c'est formidable. Ma grand-mère ne savait pas écrire. C'était une ancienne bergère, racleuse de peau de mouton. Mon grand-père était marchand en peau de mouton en Espagne, en Allemagne, pour une affaire de juifs européens. Mes parents et les siens avaient le certificat d'études, donc ce que nous avons appris comme vocabulaire, c'est à l'école primaire, avec de très bons instituteurs, de très bons professeurs, mais comme ma mère n'avait jamais fait de latin, on m'a mis dans une école primaire supérieure. Et quand j'ai voulu faire du latin, ça a été en seconde avec 6 ans de retard, seconde et première. J'en ai fait 2 ans, il ne me reste plus grand-chose, à part le latin d'enfant de cœur que j'ai appris quand j'étais enfant de cœur. Voilà. Bon, puis après, là, j'ai rattrapé le temps perdu, parce qu'on nous obligeait à faire le certificat d'études jusqu'à 12 ans. Alors, on entrait au lycée avec 2 ans de retard. Après, quand je suis passé à l'école normale, au lieu de me passer en première, on m'a fait redoubler la seconde. Donc j'avais pris 3 ans de retard. Mais quand je suis arrivé après le baccalauréat en Cagne, à Toulouse, au lycée Fermat, comme ma femme au lycée Fénelon à Paris, là on était reçu du premier coup à 2 écoles normales supérieures, Saint-Cloud et Lancette. Ce qui fait que les gens qui étaient plus âgés que nous, les carrés, qui avaient déjà 2 ans, les cubes, qui étaient déjà depuis 3 ans, les tétras, qui étaient depuis 4 ans, les pentas, il n'y en avait que deux, qui étaient là depuis 5 ans pour préparer Normale Sup au Saint-Cloud. Et il y avait dans le fond une espèce de sanglier aux ongles noirs, avec des cheveux longs, qui sentait mauvais, qui était exa. Il était là depuis 6 ans, il avait déjà 26 ans, il était licencié, il n'y avait pas de maîtrise à cette époque. J'ai eu la chance d'être reçu à Nippocagne dès la première année. Donc j'ai rattrapé tout mon retard et j'étais pauvre à 23 ans. Voilà. Après, plus tard, agrégé et puis docteur. Voilà. Si vous voulez, en gros, agrégé de lettres, moderne, parce que latin, bon. Non. J'avais une seule chose, une seule crainte, c'est de ne pas pouvoir faire une licence parce qu'il fallait du latin. Même les modernes. Alors je me dis, pourvu que je tombe à côté d'un curé ou d'un séminariste pour pouvoir copier sur lui, parce que c'est pas possible. Mais l'admission à une école normale supérieure me dispensait du certificat d'études littéraires avec le latin. Alors, comme ça, mon vocabulaire latin étant très pauvre, je m'en suis passé, quoi. Je suis passé à Lancette, comme normale supérieure de l'enseignement technique, où j'ai eu plus tard, il n'y en avait que 5 en France, des écoles nationales professionnelles. Nous avons été nommés à Saint-Étienne. Et là, on a préparé au baccalauréat qui venait de naître, en 1956, E, qui était le bac C, le bac Mathélème, je ne sais pas si ça existe pareil en Espagne, non, S. Mathématiques surtout, mathématiques physiques, et en plus de la technologie du dessin industriel qui préparait ensuite aux arts et métiers. Je ne savais pas enseigner, mais les élèves étaient tellement triés, 70 sur 1200 présentés, c'était un massacre de prolétaires. On prenait la crème des prolétaires, et directement, ils avaient tous le bac, malgré moi, puisque je ne savais pas enseigner encore. Et ensuite, les arts et métiers, dans la foulée, quoi. Voilà mes débuts littéraires. Le vocabulaire, très pauvre au départ. Ma grand-mère, qui était bergère, qui confondait les mots, me disait, va me chercher des poivres. Moi, j'allais chercher du poivre, parce que j'étais quand même à l'école, je savais distinguer le poivre du sel. Mais non, je t'ai demandé des poivres. Elle voulait penser des poireaux. Alors, vous voyez, je n'étais pas très aidé sur le plan familial par le vocabulaire parlé. Bon, je me suis
Mais
rattrapé.
c'est parce qu'elle parlait une autre langue, votre grand-mère, ou elle parlait
On
que français?
parlait souvent gascon à la maison. Bayonne, contrairement à ce que disent les Basques, est une ville gasconne. Aux élections, ils ont entre 1,5 et 3% des voix. Alors, il y a des chansons que je chantais quand j'avais 10 ans pour les fêtes de Bayonne, qu'avait fait un chanoine local. Salut Bayoun, petite floue, proche le Nîmes, proche l'Adour, près de la Nîmes, près de l'Adour. Maïnade, jeune fille, à la berbe gascoune, à la faconde gasconne. Charmante et gaouilleuse citate, charmante et gracieuse cité, où respire la libertate, où respire la liberté, salut Bayoun. Voilà ce qu'on chantait en 1935, au moment des premières fêtes de Bayonne. Les Basques ont commencé à se remuer beaucoup plus tard, avec l'arrivée des réfugiés espagnols. J'avais en classe des deux Espagnols qui avaient appris la langue à toute vitesse et qui étaient devant nous à l'école, en français même. Elle rit, elle est comme ça. Bon, et puis, je l'ai retrouvé 50 ans après, ce garçon. Puis il est mort brusquement. Alors, j'avais repris des cours d'espagnol avec lui parce qu'il en donnait à Mayol et c'était rigolo. Alors, ces réfugiés espagnols, dont beaucoup étaient basques, nous ont amené la danse, les chants. Moi, je me suis inscrit parce que les curés au patronage étaient basques. Les instituteurs, ils étaient basques. Donc, ils nous faisaient chanter en basque sans nous donner la traduction, comme en latin, sans nous donner la traduction, on chantait latin. C'était malin, hein, ça. Bon. Et puis, j'ai fait partie du groupe des Batsalai avec. J'avais des bâtons, j'ai appris le fandango, etc. Du côté de Barcelone, j'ai appris la sardane après, quand j'ai fait des cures par là, pour ma seconde fille. Voilà, alors. Je vous dis, j'appuie ça un petit peu sur la langue, mais je trouve absurde de faire parler les gosses en latin, de faire parler les gosses en basque, chanter en basque. Et puis après, ce n'est que beaucoup plus tard, quand à l'école normale, j'ai voulu savoir quand même ce que je chantais. Que Adios Isaréder, Adios Isara, adieu bien, ma bien-aimée, adieu ma belle étoile. Bon, c'était merveilleux, mais qu'on me le dise. Qu'on nous le dise. Alors je regrettais. Après, quand je suis revenu professeur ici, bon, j'avais cinq casquettes de président de téléclub, de théâtre, de club UNESCO pour la ville de Bayonne, etc. Alors je recevais des gens ici à table, comme vous, venus du Brésil, d'Amérique, du Canada, des Noirs. Mes filles avaient 6 ou 7 correspondantes, japonaises, polonaises, etc. Elles sont allées partout chez leurs correspondantes. Donc je ne vais pas me déplacer puisque les gens venaient à moi. Mais ils parlaient tous français. C'était des professeurs de français du Brésil, de Chine, de Russie, etc. Alors là, j'ai vécu un mouvement d'ouverture à toutes. Je ne dis pas les langues parce que heureusement que c'était des Français. Bon, j'avais. Un anglais très pauvre et minable, un espagnol convenable, parce que j'avais fait 12 ans. Là, à la rigueur, je pouvais parler avec un cubain.